Monique Robin, j'y suis.
Bonjour.
Vous êtes au Festival de Pessac, vous avez fait de très nombreux films
Et livre.
et livres, justement, j'allais y venir, puisque le Covid nous revient. En France, on dit la Covid, moi je préfère le masculiniser. Vous avez fait justement la fabrique des pandémies. Et c'est vraiment intense. Il y a le livre, il y a le film, on apprend plein de choses parce que les pandémies, elles se succèdent et elles s'accélèrent depuis plusieurs décennies. Vous avez travaillé dans plusieurs pays pour observer, pour savoir quelle était aussi la genèse de ces pandémies. Et vous dites que les virus sont pathogènes, ils sont là, mais que l'action humaine va faciliter leur déferlement sur la Terre.
Oui, tout à fait. C'est une enquête que j'ai menée pendant 2 ans, donc effectivement un film et un livre, où j'ai interviewé une centaine de scientifiques. J'en ai gardé 60 pour le livre et une quinzaine pour le film, qui disent tous, sur tous les continents, que l'origine des pandémies, qui sont de plus en plus fréquentes, c'est la destruction des écosystèmes, notamment dans les zones tropicales. Et c'est vrai que la liste, en fait, elle est très longue, hein.
Elle est vertigineuse.
Ebola, le sida est aussi une maladie infectieuse émergente qu'on peut regarder aussi à travers ce prisme en fait, hein. Mais
La
aussi,
maladie de Lyme.
vous voyez la maladie de Lyme qui est en pleine explosion, le Zika, le chikungunya, etc., etc. Et en fait, ce qu'ils ont démontré ces scientifiques, c'est que dans les zones tropicales où il y a une grande biodiversité, c'est-à-dire beaucoup d'arbres, d'espèces d'arbres, de plantes, d'animaux, la faune sauvage. Eh bien, il y a aussi beaucoup de micro-organismes parce qu'en fait, ils font partie de la biodiversité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de maladies qui émergent là-bas. Et pourquoi elles émergent? Parce que les humains entrent dans ces espaces.
Et des forêts.
Déforestent. Voilà. Ils déforestent pour faire du soja, par exemple, comme on voit en Argentine ou au Brésil, comme je l'ai montré dans des films précédents, pour nourrir ensuite les élevages intensifs européens, parce que c'est ça, hein, bien sûr. Ou pour mettre des palmiers à huile, exploiter des mines, vous voyez. Donc tout ça va faire que, d'abord, les humains entrent en contact avec des animaux sauvages. Voilà, et des micro-organismes dont ils sont les réservoirs, c'est comme ça qu'on appelle ça, mais qui étaient là depuis la nuit des temps, hein, ils n'ont jamais embêté ces micro-organismes. Et puis ensuite, ils ont démontré aussi que, à travers la maladie de Lyme d'ailleurs, c'est le modèle, que cette biodiversité a un effet régulateur sur les maladies. Alors, c'est quoi le mécanisme qu'ils ont mis au jour? Ces deux scientifiques américains qui ont essayé de comprendre pourquoi cette maladie de Lyme et explosé aux États-Unis, mais pas que, hein. En Europe, c'est aussi un problème de plus en plus important. Alors, ils ont constaté que, vous savez que la maladie de Lyme est transmise
Par les tiques.
voilà, par les tiques, qui héberge une bactérie, qui a un nom imprononçable, Borrelia burgdorferi. Mais en fait, il faut savoir que les tiques, quand elles naissent, elles ne sont pas infectées. Donc, pour pouvoir s'infecter, si j'ose dire, il faut qu'elles fassent un repas sanguin sur ce qu'on appelle le réservoir de cette bactérie. Le réservoir, donc, c'est un animal qui porte la bactérie, ça peut être un virus
En
d'ailleurs.
vecteur.
Alors, c'est pas vraiment un vecteur, c'est-à-dire, il l'héberge, mais il n'est pas malade. Il est
Mais il se fait vampiriser.
asymptomatique. En l'occurrence, c'est un rongeur, hein. Alors, aux États-Unis, c'est une souris à pattes blanches. En Europe, c'est plutôt le campagnol ou le mulot. Donc, ils hébergent cette bactérie. Ensuite, la tique, si elle se nourrit sur ce rongeur, elle fait un repas sanguin sur ce rongeur, elle va s'infecter. Et ensuite, elle peut infecter les humains. Mais ce qu'ont montré ces scientifiques américains, c'est que plus il y a une grande diversité animale dans une forêt, par exemple, eh bien évidemment, ça dilue la possibilité que la tique s'infecte sur la souris à pattes blanches, parce qu'il y a plein d'écureuils, il y a plein d'autres rongeurs qui ne portent pas la bactérie. Il y a des chevreuils, vous voyez, des lynx. Eh bien, ça dilue la probabilité que la tique s'infecte. Et qu'est-ce qu'ils ont montré? C'est que quand on morcelle une forêt, on fragmente une forêt parce qu'on va faire une route, on va faire une culture, on va faire un parc de loisirs, eh bien, d'abord, les premiers à disparaître sont les prédateurs, les renards par exemple, qui n'ont plus assez d'espace pour vivre. Et ça va entraîner une prolifération des rongeurs, dont les souris à pattes blanches. D'accord? Et en fait, ils ont démontré que plus on fragmente une forêt, plus on augmente le risque d'être infecté par la maladie de Lyme. En fait, on multiplie les risques par 5. Et donc, vous voyez, plus il y a de biodiversité, plus on dilue le risque que cet agent
Ça se
infectieux
diffuse.
se diffuse. Voilà. Alors, ce mécanisme qu'on appelle l'effet de dilution a été observé pour beaucoup de maladies. En fait, l'émergence de ces maladies infectieuses est véritablement provoquée par un dysfonctionnement des écosystèmes, provoqué par les activités humaines. C'est ce que démontre le film à travers plusieurs exemples. Ebola, c'est la même chose. On sait que Ebola est apparu. Bon, le réservoir du virus d'Ebola, c'est une chauve-souris. une certaine espèce de chauve-souris. Mais les virus de chauve-souris, ça ne saute jamais directement aux humains. Jamais. C'est bien fait, la nature, en fait. Hein. Il faut qu'il y ait un animal intermédiaire qui va permettre à ce virus, d'abord, de s'adapter et ensuite, éventuellement, de sauter, comme on dit, aux humains. Là, en l'occurrence, pour Ebola, l'animal intermédiaire, ce sont des singes qui vont, par exemple, être infectés par ce virus Ebola parce que quand on détruit la forêt, c'est l'histoire du virus Ebola, de cette maladie, les chauves-souris stressent, sont obligés de partir parce qu'on casse les arbres, enfin, on n'a plus rien à manger, etc. Et en stressant, eh bien, elles vont commencer à disperser ces virus dont elles sont porteuses. Des aliments qui sont là, des fruits. Alors, le singe mange le fruit, il se contamine. Si en plus les humains mangent le singe, qui est l'histoire de la maladie d'Ebola, eh bien, ils peuvent ensuite évidemment aussi être contaminés. Donc vous voyez, on a toujours ce même mécanisme quand on détruit les écosystèmes. C'est là qu'on se met en danger, voilà. Et c'est ce que démontre la fabrique des pandémies. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours. Le film a très bien marché. Il est passé sur la RTS d'ailleurs. Il est passé en Suisse. Hein. Mais beaucoup au cinéma. Le livre marche très très bien parce qu'en fait les gens, les lecteurs, les spectateurs me remercient en me disant ah mais c'est éclairant parce qu'en fait avec cette fameuse Covid, on ne comprenait pas ce qui nous arrivait. Quoi. Je veux dire, d'où ça sort, pourquoi, enfin voilà.
Et dans cette pandémie, on a accusé d'abord les chauves-souris, puis le pangolin, et on a vu que ça passe aussi par les cochons.
Oui, alors là, en l'occurrence, on sait que le virus qui est à l'origine de la Covid-19, c'est un virus de chauves-souris. Mmh. Le pangolin n'a rien à voir. On n'a jamais retrouvé, c'est ça un petit peu...
On l'a diabolisé.
Le pauvre pangolin, mais n'a rien à voir. Mais on n'a jamais trouvé l'animal intermédiaire. Moi, d'ailleurs, quand j'ai fait la postface de mon livre pour la version poche qui est sortie en France, j'ai voulu reprendre tout un an après. Et j'en ai conclu, pas moi toute seule. Les scientifiques m'ont donné tous les éléments pour me dire que très certainement, il s'était quand même échappé du laboratoire P4 de Wuhan. Mais ça ne change rien à tout ce que je viens de dire. Parce qu'en fait, ce qui explique très bien aussi le film et le livre, c'est que si on veut stopper cette épidémie de pandémie, c'est un terme qu'utilisent les scientifiques du film, bien soit on fait ce qu'ils préconisent dans le film, arrêter de déforester, manger de la viande bio et locale, on mangeait moins déjà, mais bio et locale, c'est-à-dire pas de la viande qui est nourrie avec du soja qui vient d'Amérique.
Arrêter la surproduction. L'élevage intensif.
Oui, parce que l'élevage intensif sert souvent d'intermédiaire. Soit on fait ça, alors évidemment, il faut un peu de courage politique, hein, parce que c'est même la même chose que pour le climat, parce qu'en fait, c'est les mêmes causes qui provoquent la destruction de la biodiversité, le changement climatique et l'émergence de nouvelles maladies infectieuses. Alors, soit on fait ça, avec un peu de courage politique, soit on fait ce qu'on appelle la biosécurité, et on ne touche rien, on continue comme avant, et on va capturer les chauves-souris pour déterminer quel virus elles ont dans des laboratoires hyper, hyper protégés, donc on appelle ça les P4, hein, de haute sécurité. On va ensuite les manipuler pour voir éventuellement quel vaccin on pourrait faire par anticipation, enfin, etc., etc. Et ça, c'est très dangereux. Et c'est ce qui s'est passé très certainement à Wuhan, parce que je vous rappelle que le premier coronavirus de chauves-souris qui a contaminé les humains, c'était en 2002-2003, le premier SARS, n'est-ce pas, qui avait fait très peu de morts à l'époque, quand même, il faut le dire, 800 personnes, c'est pas... Enfin,
voilà, c'était resté anecdotique.
Oui, voilà, tout à fait. Et on s'est demandé pourquoi, d'ailleurs. On a retrouvé l'animal intermédiaire, en l'occurrence, là. C'était un petit mammifère qu'on appelle la civette. On a retrouvé exactement le même virus que celui qui avait contaminé les humains. Et après, on s'est dit, c'est bizarre, pour le SARS-CoV-2, on ne trouve pas l'animal intermédiaire. Il est hyper... il se dissémine très facilement, enfin... Très, très, très contagieux. Et c'est là qu'il y a eu des soupçons, quand même. Est-ce qu'il n'aurait pas été finalement modifié ?
Très évolutif.
Oui, très, voilà. Et donc, ça va vraiment dans le sens d'un accident de laboratoire.
Et d'intervention humaine.
Et d'intervention humaine, tout à fait. Et bien évidemment, les scientifiques de mon film, ils disent que ce n'est pas la solution de faire ça, parce que c'est dangereux, la preuve. Hein, parce qu'il ne s'agit pas de penser que ça a été fait exprès. C'est-à-dire, vous verrez dans le livre, je raconte qu'une étude très bien faite par deux Américains a montré que dans les laboratoires P3 et P4 de haute sécurité, P4 c'est très très haute sécurité, il y a 20% d'incidents. Parce que, voilà, on peut faire tous les sas de sécurité qu'on veut, etc. C'est souvent des substances très dangereuses, voilà. Donc, la solution, ce n'est pas la biosécurité. Hein. La solution, c'est plutôt de accompagner une transformation du modèle agricole, voyager moins aussi, parce que...
Réfréner la frénésie actuelle.
Oui, et puis cette globalisation complètement effrénée qui fait qu'on balade tout, dans tous les sens, pas que les humains, les marchandises, les animaux, enfin, vous voyez, et tout ça. Il y a un exemple très frappant qui résume tout ça, c'est l'histoire du virus Nipah, dont je parle dans le livre et le film, les deux. Donc, ça se passe en Malaisie, à la fin des années 1990. On déforeste sur l'île de Bornéo pour mettre des palmiers à huile. Les chauves-souris, qui sont donc l'un des réservoirs principaux avec les rongeurs de virus et de bactéries potentiellement dangereux pour les humains, sont obligées de s'enfuir parce qu'on détruit tout, on brûle tout. Elles stressent, et elles cherchent à manger. Ce sont des chauves-souris frugivores, donc elles cherchent des fruits et tombent sur une monoculture de mangue sur les côtes malaisiennes. Elles s'arrêtent sur ces monocultures et au-dessous, on fait un élevage intensif de cochons à ciel ouvert. Eh bien, les chauves-souris mangent les mangues, contaminent les cochons, qui contaminent les humains, parce que le cochon est un très bon hôte intermédiaire pour humaniser, entre guillemets, un virus, parce qu'on a beaucoup, on partage beaucoup de... partage 95% de nos gènes. Ouais, c'est impressionnant. Le chimpanzé, c'est 99, c'est encore plus.
Le cochon a été utilisé à une époque pour l'insuline.
Oui, l'insuline, et puis même, voilà, et puis aussi on fait, vous savez, on essaie de faire des enfants, voilà, xénogreffe, voilà, c'est tout à fait, on va y arriver d'ailleurs, hein, parce qu'il y a une très grande proximité,
c'est en bonne voie, en tout cas.
C'est en très bonne voie, voilà. Donc voilà, les cochons contaminent les humains, les ouvriers des élevages intensifs, ensuite ces cochons, c'est l'ironie du sort, n'étaient pas destinés à la Malaisie parce que c'est un pays musulman, ils étaient destinés à Singapour, ils prennent le bateau, ils sont abattus, pour ensuite le marché chinois. Et là, et du coup, dans les abattoirs, on est contaminé, et c'est un virus qui tue 40% des gens, hein, c'est sérieux, hein, c'est très sérieux. Et là, on voit bien déforestation, élevage intensif, globalisation, et là, vous avez les trois facteurs clés
réunis
qui expliquent beaucoup de nouvelles maladies. On voit dans le film d'ailleurs une séquence qui a beaucoup marqué les téléspectateurs, parce que c'est vrai que c'est très parlant. On est en Thaïlande avec un chercheur français du CNRS, notre centre de recherche, et il a fait une étude où il a pris la carte de la déforestation en Asie du Sud-Est. D'accord ? Vous voyez, là, au cours des 50 dernières années, là, on a déforesté beaucoup, là. La carte des espèces menacées d'extinction. Il dit, tiens, telle espèce, là. Et après, la carte des foyers infectieux. Et c'est beaucoup, hein, parce qu'au cours des 50 dernières années, il y a eu plus de 200 pandémies, épidémies, qui sont restées plutôt régionales, hein, mais qui sont apparues. Et en fait, ces trois cartes se superposent. Donc on voit vraiment bien, quand on déforeste, on menace d'extinction, finalement, des espèces sauvages. Et c'est là aussi que...
On libère les virus pathogènes.
Voilà, on libère les virus pathogènes. Donc c'est très parlant, parce qu'on voit vraiment que les cartes,
elles sont intrinsèquement liées.
Ah oui, c'est totalement lié. Donc moi, ça m'a beaucoup, beaucoup... éclairé, comme je vous le disais, les gens qui m'écrivent ou qui voient le film, parce que c'est très cohérent, en fait. Ça remet de la cohérence, vous voyez, dans toute cette histoire de pandémie où on ne comprenait pas trop ce qui nous est arrivé, d'où ça venait, etc. Voilà.
Marie-Monique Robin, je reviens sur ce que disiez en début d'entretien. D'une part, on déforeste donc ces forêts primaires qui sont salutaires pour éviter le réchauffement climatique, ouais, comme pour ces espèces.
Ouais.
Les espèces sont démunies de leur habitat. Et en plus, on est en train de déforester pour en fait faire des plantations, par exemple, de teck. Je pense au Mato Grosso au Brésil, pour la consommation.
Bien sûr.
Donc c'est une aberration globalisée, ouais, aussi.
Bien sûr. Mais d'ailleurs, ce que disent les scientifiques, c'est que face à ça, il faudrait vraiment revoir... D'abord, notre position à nous, les humains, dans la chaîne du vivant. Parce que,
et de consommation.
Oui, et nous, d'abord, on a tendance à se considérer au-dessus de la chaîne du vivant en se disant, moi, je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais en France, par exemple, ils sont en train d'exterminer les renards, ce qui est une grosse...
Les loups, en Suisse.
Les loups, on a du mal à les réintroduire, nous, en France, vous voyez. Les lynx aussi. Mmh. Enfin, bon, les renards, on en a vraiment besoin. Pourquoi ? Parce que les renards, ils ont une place dans la chaîne alimentaire. Ils vont, par exemple... se nourrir de plein de petits rongeurs, dont les campagnols et les mulots, dont je disais que c'est le réservoir en Europe de la bactérie de Lyme. Donc, quand il n'y a plus de renards, eux, ils prolifèrent. D'ailleurs, ils font des dégâts. C'est même absurde, parce qu'on tue les renards et au final, les agriculteurs sont envahis par ces rongeurs. Ils mettent des rodenticides, c'est-à-dire des pesticides qui tuent les rongeurs. Voyez. Donc, non, il faut qu'on revoie notre place. Il n'y a pas d'espèces inutiles sur cette planète. Elles ont tout un rôle, y compris écologique. Hein. Et puis, on est tous interconnectés. On voit très bien dans mon film, par exemple, à Madagascar, où on a déjà déforesté 90% de l'île. C'est impressionnant. Hein, c'était vraiment un lieu de très grande biodiversité et qui est très, très menacé. Hein, donc beaucoup d'espèces menacées, dont les lémuriens. Alors, on comprend très bien dans le film que si les lémuriens disparaissent, parce que là, ils sont tous très menacés, c'est pas bon pour nous. Parce que ça veut dire que la forêt a totalement disparu. Donc le climat va s'emballer, parce qu'on a besoin des forêts qui captent le carbone, vous voyez.
L'eau de la mer va monter.
Oui, et tout ça, vous voyez, et il y aura plus de maladies, etc. Donc on voit vraiment comment on est tous interconnectés. Le sort des Lémuriens ben, nous concerne, quoi. Voilà, on est liés à eux, enfin, et vice-versa. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs concepts qui ont été développés. Alors celui qui est promu par les Nations Unies, puis la Commission européenne, etc., c'est One Health, une seule santé. Ça veut dire qu'il faut arrêter de séparer la santé des écosystèmes, la santé des animaux sauvages et domestiques et la santé des humains, parce que tout ça est lié. Que si on continue à séparer en disant ben voilà, je vais continuer de déforester en Amazonie, ben c'est pas bon, parce qu'au final, ça va nous retomber dessus, parce que le climat, encore une fois, va trop se dérégler, etc. etc. On ne pourra plus produire d'aliments, enfin tout ce qu'on sait qui est en train de se passer. Et puis, alors, un autre concept, encore plus global, peut-être, c'est la santé planétaire, Planetary Health. Dont ça a été lancé à Boston notamment, à l'université Harvard, et la filiale française de ce concept a été lancée à Genève d'ailleurs, et ça comprend en santé planétaire bon, tout cet aspect de l'interconnexion entre la santé des écosystèmes, des animaux et des humains, mais en plus le climat, l'organisation des villes, parce que tout ça c'est, vous voyez, tout est lié en fait. Et c'est-à-dire que dans les villes, bah évidemment, il faut aussi arrêter de déforester chez nous et d'étendre déforester ou en tout cas bétonner chez nous, en Europe, je veux dire. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que je prépare un autre film que je suis en train de tourner, enfin, je suis en train de monter plus exactement.
On va voir prochainement.
Oui, Vive les microbes, ça s'appelle. Parce qu'en fait, un autre aspect qui est abordé dans le livre, mais pas dans le film, La fabrique des pandémies, c'est pour ça que je fais un film à part. Les scientifiques ont aussi montré que quand on détruit la biodiversité dans nos pays très urbanisés, vous voyez, eh bien, cela provoque toute une série de maladies inflammatoires chroniques qui sont de plus en plus courantes chez nos jeunes. L'asthme, l'allergie, l'intolérance au gluten, au lactose, je ne sais pas quoi, enfin, toutes choses qui n'existaient pas, moi, quand je suis née, je n'ai jamais entendu parler de ça, vous voyez. Et en fait, ils ont démontré que si on veut que nos enfants aient un bon système immunitaire, eh bien, il faut qu'ils soient confrontés dans la petite enfance au maximum de microbes. Parce qu'en fait, 99% des microbes sont très bons pour la santé. Il y a 1% qui peut être dangereux, mais le sont d'autant plus qu'on n'a plus assez de bons microbes dans notre microbiote, c'est-à-dire la flore intestinale, notre intestin. Et en fait, les études montrent, dont une qui a été réalisée en partie en Suisse d'ailleurs, que quand on est né dans une ferme traditionnelle, où il y a des vaches qui mangent de l'herbe, c'est-à-dire qu'elles sortent et tout.
Et qu'on boit leur lait.
Et qu'on boit leur lait cru, avec du fromage au lait cru. Que les enfants, dans ces fermes traditionnelles, évidemment, quand c'est une ferme traditionnelle, les enfants, ben, quand les parents sont à l'étable, ils y vont, ils jouent dans le foin.
Ils jouent les mains dans la terre.
Ils jouent les mains dans la terre.
Ils la mettent à la bouche.
Ouais, exactement. Tout ça. Mais ça, c'est 20 ans d'études, vous verrez, c'est extraordinaire. Hein. Eh ben, ils ont comparé, donc, dans 5 pays européens, 200 familles dont 100 vivent dans une ferme comme ça, et 100 dans un monde rural, dans un environnement rural, mais pas dans une ferme. D'accord ? Ils l'ont fait en France, en Italie, etc., en Allemagne. Et en fait, ils ont conclu que quand tu nais dans cette ferme-là, traditionnelle...
Le système immunitaire...
Génial. Pas d'asthme, pas d'allergie, pas de diabète, parce que la liste est longue, hein. Pas de maladie de Crohn. Vous voyez, toutes ces maladies d'origine inflammatoire qui sont vraiment de plus en plus courantes chez les jeunes. Et c'est très intéressant parce qu'on voit aussi que finalement, pour en revenir au Covid, contrairement à ce qu'on nous avait dit, il n'y a pas eu d'hécatombe en Afrique. Parce qu'on nous avait dit, voilà, vous allez voir, ça va être une hécatombe.
Le Covid a moins tué que...
Ah ben, les chiffres sont maintenant, on a les données. Absolument incroyable. 20 ou 30 fois moins que dans les villes.
Ou que l'époque des 80 SIDA.
Alors, en fait, qu'est-ce qu'ils ont montré? C'est que, par exemple, en Afrique, où je suis allée au Gabon, ou en Thaïlande, toujours, je suis aussi allée, dans les zones rurales, ils ont des anticorps. C'est-à-dire qu'ils ont été contaminés par le Covid-19. Mais ils n'ont pas été malades, ni ils ne sont pas morts. Et en fait, les seules morts qu'il y a eu dans ces pays, c'est dans les villes. Parce que dans les villes, que vous viviez à Libreville, à New York, à Paris...
Ils sont moins immunisés.
Et ils ont un environnement trop de béton, trop de malbouffe, trop d'hygiénisme, mais vous voyez, hyper-hygiénisme, pas assez de contact avec la biodiversité, par les aliments, par l'air, par l'eau, comme vous le disiez, jouer dans la terre, comme on faisait dans les campagnes, comme moi, je suis dans la campagne autrefois, vous voyez, voilà.
Et ça n'inquiétait pas d'ailleurs les parents?
Ben non, pas du tout. Et en fait, Ah ben, ça explique pourquoi, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de la biodiversité, pourquoi dans ces zones rurales africaines et asiatiques, il y a eu très peu de morts de la Covid. Les seules morts, c'est dans les villes. Donc vous voyez, on comprend bien comment, quand on détruit la biodiversité dans les zones tropicales, on peut faire sortir du bois, entre guillemets, des agents pathogènes. Mais quand on n'en a plus dans nos milieux de vie, de biodiversité, n'est-ce pas, eh bien, on est plus vulnérable aux effets des nouveaux virus qu'on a fait sortir du bois, vous voyez, la boucle est bouclée, quoi.
Ça fait songer aux dominos qui, quand un chute, les autres
suivent. Oui, voilà, c'est l'effet papillon aussi.
Voilà. Et je rebondis sur vos propos, Marie-Monique Robin, quand vous dites aussi par rapport à l'immunisation, le système immunitaire, on a de plus en plus tendance à médicaliser les accouchements avec des césariennes. Ah bon ? Et pour l'enfant, il est primordial de passer par le chemin naturel pour avoir justement les anticorps de sa maman.
Oui, d'ailleurs, même les scientifiques que j'ai interviewés, notamment des pédiatres, évidemment, comment est-ce qu'un enfant ensemence, c'est le mot qu'ils utilisent, son intestin? Parce que quand il naît, l'enfant, il est vide de microbes. Et c'est évidemment quand il naît par les voies naturelles que son intestin va être ensemencé une première fois par les bactéries qu'a la maman. Sa maman. Et si on ne peut pas faire autrement, parce qu'il y a des cas, on ne peut pas faire autrement que de naître par césarienne. Évidemment, pas de césarienne de confort, entre guillemets, parce que je vais accoucher à 14h30
ou que le médecin est en vacances.
Non. Eh bien, si vous ne pouvez pas faire autrement, parce que c'est une raison médicale, eh bien, ce qu'il conseille, c'est de mettre un coton-tige dans le vagin de la maman.
Et le passer sur l'enfant.
Oui, il le passer sur l'enfant, y compris.
Et c'est récent.
Ah ben oui, parce qu'en fait, il dit c'est là qu'il va se.
Alors après, mais c'est récent qu'on ait pris conscience de ça.
Oui,
de son importance.
Parce que il y a un énorme. Ça, c'est extraordinaire, hein, d'ailleurs. On en a pour des décennies d'études. Tout le champ d'investigation du microbiote, ce qu'on appelle donc le microbiote, est tout à fait récent.
Et on voit l'incidence sur l'état général de la personne.
Bien sûr, voilà. Mais après, il faut qu'évidemment, si possible, que le bébé soit allaité, parce que par l'allaitement, la maman va transmettre d'autres bactéries extrêmement bonnes qui vont lui permettre de développer son microbiote, la richesse de son microbiote, mais aussi de se préparer, vous verrez, à la nourriture qui vient de l'extérieur. Après, il faut qu'il mange bio, local, pas de la malbouffe, pas aseptisée.
Et de la nourriture transformée qu'on trouve.
Pas la nourriture transformée, parce qu'elle est morte, cette nourriture. Voilà. Vous voyez, elle n'a plus rien.
Des toxines.
Oui, des toxines, mais très peu de microbes, des bons microbes qui vont stimuler. Parce que ce qu'on comprend, c'est que le système immunitaire des petits-enfants, il doit être stimulé pour pouvoir apprendre à faire son job, qui est d'identifier les dangers et les non-dangers. Et se défendre quand il y a un vrai danger. Et pour ça, c'est de la stimulation, ça passe par ces microbes qui vont faire que tout se met en branle pour dire « Ah, attention, toi, mon coco, je vais te... » Voilà. Et plus vous avez d'exposition, plus ce système immunitaire va s'entraîner, vous voyez, et va être fort. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ces microbes et qu'il faut sortir de cette vision d'hyper-hygiénisme absolument terrible, quoi. Donc, évidemment, il ne faut pas laver les enfants tout le temps en permanence, obsédé. Il y a un truc qui tombe par terre, sa sucette, au lieu de se dire je me précipite, je la passe sous l'eau de Javel, parce que l'eau, souvent, c'est plein d'eau de Javel. Non, ce n'est pas grave. Vous voyez voilà. Alors, c'est ce que montrent ces études et c'est très impressionnant parce qu'on comprend mieux aujourd'hui pourquoi il y a toutes ces allergies partout. Enfin, c'est impressionnant, quoi. Vraiment impressionnant.
Et le fait semaine ne fait que s'accroître.
Bien sûr. En fait, d'ailleurs, c'est simple. On estime qu'il y a 50 ans, en Europe, il y avait moins de 5% de personnes qui avaient une allergie ou de l'asthme. Aujourd'hui, on est à 30%. Et si on ne change pas de cap, si on ne prend pas des mesures de prévention, on estime que ça sera une personne sur deux avant 2050. Donc, c'est une vraie épidémie, ça aussi. Hein. Mais on la fabrique, cette pandémie, encore une fois, là, parce que c'est ce rapport à la biodiversité qui est totalement
et puis au recours intensif et
aux antibiotiques.
Voilà.
Alors les antibiotiques, évidemment. Alors il faut savoir que quand on donne des antibiotiques pour de mauvaises raisons, parce qu'il ne s'agit pas de dire que ça ne sert à rien, les antibiotiques, ça sert, mais il ne faut pas les utiliser n'importe
quand. Mais elles
ont été généralisées. Trop mal utilisées. Eh bien, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on prend des antibiotiques, on détruit toute sa flore intestinale. Alors si on ne prend pas derrière des probiotiques, c'est-à-dire... ça peut être manger de la choucroute, des produits fermentés, vous voyez, des yaourts, mais plutôt bio, et vous voyez, voilà. On se retrouve avec une flore intestinale très pauvre, et là, on peut avoir de nouvelles maladies, vous voyez, parce qu'on...
C'est propice.
C'est ça.
Alors, Marie et Monique Robin, vous avez travaillé sur beaucoup de thématiques, dont, bien sûr, vous avez mentionné les pesticides. On peut parler Monsanto, Roundup, et maintenant glyphosate.
Oui, bah, le glyphosate, j'ai déjà fait. Hein. J'ai fait un film,
justement.
Un livre.
Et malheureusement, vous avez vu ce que vient de décider l'Europe.
Ah oui, bah, je sais. C'est désespérant, en fait. Hein, parce que moi, déjà en 2017, j'ai fait un film et un livre. J'ai passé 2 ans. Je suis allé faire le tour du monde pour retrouver tous les scientifiques qui ont montré scientifiques indépendants qui ont montré que cette molécule est toxique, cancérigène, mutagène, c'est-à-dire qu'elle provoque des malformations congénitales, etc., etc. C'est un perturbateur endocrinien qui a des effets sur la reproduction, enfin, etc. Des études par centaines. Mm-hmm. J'ai retrouvé des victimes partout. Et là, vous voyez que...
On pense aux nappes phréatiques dans le nord de l'Argentine, à la frontière.
Oui, bien sûr.
Là, c'est dramatique.
Partout, même.
Et
partout.
Ils sont délaissés par... oui, partout.
Partout.
Et comme les lobbies restent omnipuissants, ils sont délaissés par les gouvernements. Ou est-ce que les gouvernements sont pro-industriels et peu importe les conséquences?
Il y a beaucoup, vous voyez, en passant, là, on voit bien ce qui se passe en France. Pour ce vote, la France s'est abstenue cette fois. Si elle avait voté contre, ça avait un point important. Hein, donc le glyphosate n'aurait pas été réautorisé pour 10 ans. C'est une question de lobbying, c'est une question, vous voyez, non seulement des industriels, mais un certain type d'agriculteurs qui pratiquent l'agriculture intensive et qui continuent de dire qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Alors, à leur décharge, entre guillemets, j'ai toujours dit, moi je suis fille de paysan, hein, je connais bien le sujet de l'intérieur, qu'on a besoin d'une vraie politique de soutien à la transition écologique. C'est-à-dire que quand vous avez des agriculteurs qui ne savent pas faire autre chose que de passer des produits dans les champs, parce que c'est comme ça qu'on leur a appris. Hein,
et on leur demande la rentabilité.
Et puis voilà, ils sont très endettés. C'est difficile de changer de modèle et de système si on n'est pas soutenu. Vous voyez. Donc il faut soutenir... la transition agricole, absolument. Parce que sinon, ça sera très, très difficile de la faire.
Vous parlez de lobbying, on pense à celui des chasseurs qui continuent à tuer les animaux, justement. Vous mentionnez les renards. Chez nous, on a le problème des meutes. Plusieurs meutes vont être abattues, alors qu'on sait qu'elles régulent, justement.
Ben oui.
Et après, le lobby du chasseur est omnipuissant aussi.
Ben oui. C'est comme les renards, on a besoin des loups, évidemment, on voit au Kenya, moi, je suis allée au Kenya pour filmer, j'étais chez les Maasai. Et vous savez, ce sont des éleveurs. Et ils ne font que de l'élevage, pas d'agriculture, parce que c'est la savane, il n'y a rien qui pousse là-bas. Et donc, ces troupeaux sont accompagnés par des bergers, puis ils vont pendant la journée, ils les font paître dans la savane. Et quand ils rentrent les troupeaux le soir, au cœur du village, on appelle ça un boma. Et les maisons sont autour, les animaux sont au milieu. Et tout autour, ils ont fait une protection avec des épineux, des arbres, quoi, des acacias, en fait, très épineux, pour protéger contre
les prédateurs.
Les lions et les hyènes, contre les prédateurs. Et donc, ils me disent, évidemment, si un lion, on entend quelque chose la nuit, on ne va pas le laisser faire, donc on peut l'abattre. Voilà. Mais dis-nous, on ne veut pas exterminer les lions, pas du tout. Parce que si on extermine les lions, les gazelles, les antilopes vont proliférer, les zèbres vont proliférer, et du coup, elles vont bouffer tous les arbres, les arbustes de la savane, et au final, ça sera un désert. Et nous, avec un désert, c'est fini pour nous.
Donc, vous voyez, il n'y a plus de troupeaux.
Donc, ils nous disent, et c'était très intéressant, parce que j'étais avec un Suisse de l'Institut tropical de médecine tropicale de Bâle, quand j'ai filmé là-bas, et il disait, nous, on a du mal avec les loups et tout, comment vous faites? Il dit, nous... Il faut qu'on arrive, nous, à s'organiser pour continuer notre travail sans que, évidemment, nos animaux soient... Évidemment, quand on est un éleveur, on n'a pas envie que ces moutons en Suisse bouffés par les loups ou sa vache par un lion. Mais il dit, c'est à nous de nous organiser parce que nous, on a besoin des lions. Je me répète, il dit, on a besoin des lions parce qu'ils régulent la population, notamment des ongulés, mais aussi de tous ces animaux herbivores. Qui mangent les petits arbustes, vous voyez, qui font. Il y a un autre exemple très connu, c'est à Yellowstone aux États-Unis, où un grand parc national très riche en biodiversité, où à un moment, sur la pression des éleveurs qui sont autour du parc, on a exterminé les loups dans les années 1920. Et en fait, ils se sont rendus compte que en plusieurs décennies, ça allait devenir désertique. Ils ont réintroduit les loups. Et ils ont suivi pendant 20 ans. Et on a vu comment les loups ont repris leur place dans l'écosystème. Parce qu'en fait, là-bas, c'était des ongulés qui proliféraient parce qu'ils n'avaient plus de prédateurs et qui mangeaient les arbres dès qu'ils poussaient, quoi. Et du coup, et on a besoin des loups. On a besoin
c'est une chaîne, l'équilibre est dans la nature.
Voilà.
Et l'action humaine détruit cet équilibre.
Voilà. Et puis, alors, évidemment, il ne faut pas que certaines espèces deviennent dominantes. C'est ça aussi. Mais dans la chaîne du vivant, normalement, tout est bien fait pour qu'il y ait une régulation qui se fasse. Mais nous, notre activité humaine, elle ne tient pas compte de ces équilibres-là. Et en fait, on ne comprend pas, c'est qu'en exterminant un prédateur, en fait, on déséquilibre toute la chaîne. Et ça nous retombe dessus, vous voyez. Donc, ce qu'il faudrait plutôt apprendre, d'ailleurs, C'est ce que disait Jacob Zinstak, ce fameux scientifique suisse avec les Maasai. Il disait, ah, mais ce serait bien que vous veniez chez nous pour nous expliquer à nos éleveurs comment vous faites pour vous protéger des prédateurs.
Les conscientiser.
Et voilà, et comment vous faites, parce que c'est vrai qu'on a... Voilà, la solution, ce n'est pas de les exterminer, parce qu'à un moment ou à un autre, ben, ça fait qu'on déséquilibre et ça nous retombe dessus.
Marie-Monique Robin, je dois malheureusement vous quitter. Merci pour cet entretien. Vous êtes attendue par le public du Festival d'Histoire de Pessac. Merci infiniment. On se réjouit de découvrir votre film sur les virus.
Oui, bien sûr. Vive les microbes.
Merci voilà. infiniment.
Merci.